Aujourd'hui, nous sommes le 10 janvier, une date attendue par beaucoup de Français et Françaises car elle marque l'aboutissement d'un long projet, celui de la loi sur la réforme des retraites. Le texte a été présenté à l'Assemblée cet après-midi et nous allons revenir dessus avec notre invité, Hervé Couvert, membre de l'Union départementale d'Ille-et-Vilaine de la CGT. Bonjour.
Bonjour.
Ce projet de loi, il est sur la table depuis des années. Il a été reporté durant la crise du Covid et il prend un nouveau tournant aujourd'hui. C'est un sujet pour le moins épineux parce qu'il soulève de nombreux points de désaccord, voire de contestation de la part de nombreux partis politiques et syndicats. Alors justement, pour prendre tout de suite un exemple de ce qui va changer, la première chose à laquelle on pense, c'est l'âge légal de départ à la retraite. Actuellement, il est de 62 ans, mais Elisabeth Borne l'a annoncé à 64 ou 65 ans. Qu'est-ce que ça pose comme problème, ce changement ?
Alors déjà, la première chose, c'est que ça ne va pas changer. Il est prévu que ça doive changer dans le projet gouvernemental. Pour nous, il n'est pas question que ça change et on a bien prévu de se battre et de l'empêcher. Alors, ce que ça changerait si jamais ce projet passait au Parlement et si nous n'arrivions pas à le faire sauter, eh bien, ça changerait que les salariés devraient travailler 2 ans de plus pour pouvoir bénéficier de leurs droits à retraite. Quand on sait que déjà, pour les salariés les plus pauvres, 25% d'entre eux et d'entre elles n'atteignent jamais l'âge de la retraite, actuellement à 62 ans, ça veut dire que mécaniquement, ce ne sera pas 25%, ce sera 26, 27, 28. Et donc, on va continuer à avoir les salariés pauvres qui vont payer la retraite, des salariés riches en cotisant toute leur vie et en n'en bénéficiant jamais. C'est un des premiers éléments. Mécaniquement aussi, ce qui va se passer, c'est que les retraites vont baisser. Non pas par un effet de baisse générale des retraites, mais tout simplement parce que de nombreux et nombreuses salariés, finalement, renonceront à accéder, à aller jusqu'au bout des annuités de cotisation et donc ne bénéficieront jamais de leur vie d'une retraite complète.
Et quel âge de départ à la retraite réclame la CGT ?
Pour nous, c'est simple, c'est 60 ans. On n'a jamais admis les réformes précédentes, on s'est battu contre elles, on a contribué largement à faire capoter celle de 2020 et on va continuer à se battre. Pour nous, 60 ans, c'est tout à fait tenable et c'est tout à fait normal. On peut tout à fait, dans le cadre d'une carrière incluant notamment les années d'études, et ça c'est quelque chose qui vous concerne vous directement, étudiantes et étudiants, en considérant que les années d'études sont des années de travail, puisque vous êtes travailleur et travailleuse en formation. Et donc, ces années-là doivent être prises en compte à un niveau correspondant, on va dire, au SMIC pour la première année, ensuite avec une évolution qui reste à déterminer, tout étant négociable, bien évidemment.
Certains de nos voisins européens, je pense à l'Italie, la Grèce ou l'Allemagne, par exemple, ont passé l'âge de la retraite à 67 ans. Pourquoi c'est un exemple que... Donc j'imagine vous ne voulez pas suivre.
Oui, c'est pas parce que on fait mal à côté qu'il faut qu'on fasse mal nous aussi. On a un système social, un système économique qui n'est pas le même que les autres, qui est beaucoup plus basé sur la solidarité. Et on considère nous que la solidarité nationale doit continuer à s'appliquer et peut se développer. Notamment quand on sait que finalement, le montant des retraites, ce n'est guère que 13 à 14% du produit intérieur brut dans un pays comme le nôtre qui produit autant de richesses et qui paye autant de dividendes aux actionnaires. On peut tout à fait continuer à payer des retraites aux salariés à partir de 60 ans.
Alors pour continuer cette interview, je vous propose d'écouter tout de suite un extrait.
Ils sont très nombreux à avoir répondu à l'appel des syndicats. Aujourd'hui, c'est bien la rentrée sociale, avec dans les rangs parisiens, toujours ce non à la retraite à 62 ans.
Moi, j'ai commencé à travailler à 18 ans. Aujourd'hui, j'ai fini à 62 ans. Il y a de moins en moins de salariés. On vous demande de plus en plus de travail. Comment vous voulez arrêter à 62 ans? C'est pas possible.
Nous sommes à deux dans les services pour 30 malades. Déjà 55 ans, on est déjà usé.
On vient d'entendre une archive de l'INA d'un reportage de France 2 sur la mobilisation contre la réforme des retraites de 2010. Alors c'était il y a 13 ans déjà et pourtant les revendications elles restent similaires aujourd'hui. Et cette question de la fatigue elle est d'autant plus importante que l'âge de l'espérance de vie en bonne santé est de 64 ans. Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, a déclaré à Mediapart « Après le travail, ce sera le cimetière ». Qu'est-ce que ça vous évoque cette déclaration ?
C'est malheureusement la réalité pour bon nombre de salariés. J'évoquais tout à l'heure la situation des travailleurs pauvres qui ne vont même pas jusqu'à l'âge de la retraite. Mais vous avez tout à fait raison de parler d'une donnée qui est très importante, c'est-à-dire la retraite dans une période où on est en bonne santé. Parce que ce qui est important quand on est en retraite, c'est la période où on va pouvoir en bénéficier pleinement, on va pouvoir enfin se reposer. On voyait là, dans votre reportage, on entendait une personnel soignante qui évoquait la difficulté qu'il y a dans les services. Là, c'est encore aggravé, et ça, tout le monde malheureusement le constate, ça s'est extrêmement aggravé dans les derniers mois. Comment veut-on tenir jusqu'à 64 ans quand on est infirmière ou infirmier, quand on est ouvrière ou ouvrier du bâtiment, quand on travaille sur une chaîne, ou même quand on est enseignant, par exemple, s'occuper de petits-enfants jusqu'à 64 ans, c'est extrêmement difficile. Donc cette revendication, cette remarque de Philippe Martinez, elle est on ne peut plus juste, et elle est on ne peut plus d'actualité maintenant.
Justement, sur la question de la pénibilité, le gouvernement a prévu d'ajouter 3 autres critères de risque professionnel: les postures pénibles, le port de charges lourdes et les vibrations mécaniques. Donc, en étant soumis à un ou plusieurs de ces critères, les salariés obtiennent des points et ils pourront les dépenser pour se former, passer à temps partiel ou partir plus tôt à la retraite. Ces critères, ils avaient été enlevés en 2017, ils reviennent. Est-ce que c'est quand même une bonne chose, malgré tout, qu'ils soient de retour ?
C'est une bonne chose, mais ça ne change rien au fond du problème. Et vous l'avez dit vous-même, c'est ce même président de la République avec ce même gouvernement, même si on a changé quelques têtes, qui l'avait supprimé. Donc il y a quand même une part de cynisme assez importante, et une part de mépris pour les salariés et leurs représentants des organisations syndicales en faisant ce type d'affirmation. Oui, bien évidemment, il faut réintroduire les critères de pénibilité. Il faut même en réintroduire d'autres. Il faut avoir une vraie réflexion générale sur quels sont les métiers qui doivent permettre de partir plus tôt à la retraite ou de bénéficier d'avantages particuliers qui ne seront pas des privilèges mais bien des avantages liés au fait qu'on souffre beaucoup plus dans cette profession-là que dans les autres.
Est-ce que les critères actuels ils permettent quand même déjà des avantages comme vous dites, ou est-ce que ce serait juste des mots comme ça mais sans réel effet?
Alors il y a un effet pour environ 4000 salariés par an. Voilà,
d'accord.
Je pense que tout est dit.
Oui. Cette réforme, elle amène aussi une autre question, celle des seniors. Pour donner quelques chiffres, à 60 ans, il y a seulement un senior sur 3 qui est en emploi. Et le recul de l'âge de départ à la retraite, il va libérer plus d'un million de personnes sur le marché de l'emploi, qui vont donc s'ajouter aux plus de 2 millions de Français déjà sans emploi. Quel est l'avenir de ces personnes qui aujourd'hui se trouvent dans l'entre-deux, on va dire, de cet âge de départ et qui vont se retrouver peut-être sur un marché du coup plus concurrentiel?
L'avenir déjà de ces personnes qui sont sans emploi avant d'accéder à la retraite, si jamais cette réforme passait, ça serait d'y être 2 ans de plus. Voilà, déjà, donc on n'est pas bien avancé. Et en effet, si on conserve un certain nombre de salariés 2 ans de plus sur le marché du travail, oui, nous, les vieux, on sera en concurrence avec vous, les jeunes. Et ça, non, on n'y tient pas. On n'a pas du tout cette volonté-là. On souhaite au contraire, nous, pouvoir libérer l'emploi pour les jeunes. Pas dans n'importe quelle condition d'ailleurs. Je pense que dans les revendications de la CGT, il y a aussi le passage de relais. Qui pour nous est extrêmement important. Je veux dire, avoir des périodes où les salariés en fin de carrière pourront faire bénéficier de leur expérience aux jeunes qui viendront les remplacer en tuilage et permettre ainsi une bonne continuité de l'activité des entreprises.
Il y avait aussi une volonté de créer un index des seniors. Est-ce que ça vous paraît une mesure bien ou pas?
Oui, c'est un peu gadget, puisque c'est un peu comme l'index donc, par rapport aux égalités femmes-hommes. Ce n'est pas contraignant. Donc c'est bien, on va dire. Oui, ce n'est pas bien. Voilà. Mais bah, rien, il n'y a aucune mesure coercitive. Donc voilà.
Bah pour poursuivre, je vous propose un deuxième extrait sonore, cette fois sur un thème plus économique.
Parce qu'on a des syndicats qui ne sont pas accompagnateurs de réformes. Parce qu'ils n'ont pas compris l'urgence financière pour la France. Est-ce que quelqu'un peut dire ce qui est en train de se passer dans notre pays? La charge de la dette est en train d'exploser. On avait voté pour 2022 39 milliards de coûts de la dette annuelle. 39. Maintenant, on a dépassé les 50 sur 22. Et en 23, on va aussi être à plus de 50 milliards. Et dans les années qui viennent, si on a des taux sur la dette, là, on était à 3% au mois de décembre sur les emprunts à 10 ans, si ça augmente au-delà de ça, on va se retrouver dans une situation hyper critique.
On vient d'entendre Agnès Verdier-Molinier au micro d'Europe 1. Elle parle donc d'une incompréhension de l'urgence financière de la part des syndicats. Est-ce que cet argument de l'explosion de la charge de la dette, vous l'entendez ?
L'inénarrable Agnès Verdier-Molinier, donc directrice de l'IFRAP, un institut autoproclamé avec des soi-disant experts qui, pour la plupart, ne sont pas diplômés dans ce sur quoi ils se disent experts, à commencer par elle-même, qui n'a pas du tout de diplôme d'économie. Passons sur cet institut qui est dont le but est vraiment de faire le boulot du MEDEF, qui ne m'intéresse en aucun cas mais par contre des questions qu'elle pose. Déjà, ces chiffres un peu fantaisistes sur les intérêts de la dette qui sont totalement erronés, c'est complètement faux, c'est beaucoup moins que ça. Et quand bien même, qu'est-ce que c'est la dette si ce n'est de l'investissement ? L'investissement pour que on continue une activité économique quand ça va mal, ou pour qu'on ait un système de santé qui continue à fonctionner. Et qu'est-ce que la retraite a à voir avec la dette quand la retraite est autofinancée ? À part quelques tout petits milliards qu'il a fallu réinjecter un petit peu dans la retraite certaines années, il va falloir, alors de mémoire, je crois que juste en 2027, de 2027 à 2035, il va falloir remettre quelques milliards parce qu'il y aura un peu de déficit. Il s'agit de quelques tout petits milliards par rapport à tout ce qui est injecté dans les cadeaux faits aux entreprises. On est là dans du choix politique. C'est même plus, c'est pas économique, c'est du choix politique. On décide où on veut mettre l'argent dans ce pays. Soit on met l'argent pour financer les entreprises du CAC 40 qui vont l'utiliser pour le reverser à leurs actionnaires, ce qui s'est passé en 2021, 2022, 2020, les années pourtant soi-disant difficiles. On a battu quand même tous les records de versement de dividendes en 2022. 80 milliards de versements de dividendes, soit en versement direct, soit en rachat d'actions par les entreprises du CAC 40. 80 milliards. Et on va nous faire... un caca nerveux, mais je ne vais pas le dire, pour 12 milliards qu'il faudrait verser pour financer les retraites en 2027, alors qu'on sait pertinemment qu'en conservant le système actuel, mais ne comptez pas pour moi pour le défendre, parce que ce n'est pas ce que je veux, mais peu importe, même en conservant le système actuel, on serait à l'équilibre, voire excédentaire à partir de 2035. On est à 14% de PIB pour les retraites. C'est rien. C'est rien, c'est un choix politique de mettre cet argent-là dans les retraites ou pas. Voilà. Le but de cette réforme, le but réel en termes de financier, ce n'est pas de récupérer ces quelques milliards, c'est de donner un gage politique à la communauté européenne pour pouvoir continuer ensuite à mener la politique du quoi qu'il en coûte vers les entreprises. Ce n'est que celui-là. Tout le reste, les arguments ne tiennent pas. Les arguments économiques sont balayés complètement par tout le rapport du comité d'orientation des retraites. Comité d'orientation qui est un organisme indépendant dans lequel siègent des personnes de nombreuses organisations. Il y a le MEDEF, mais il y a aussi la CGT. Voilà. Et qui arrivent à se mettre d'accord sur des chiffres. Et les chiffres, ils sont malheureusement clairs et sont incontestables. Il n'y a pas de problème de financement des retraites.
J'avais une question pour vous. On sait que le taux de chômage des seniors est très élevé. Or, en reculant l'âge de la retraite, ça va probablement augmenter le nombre de seniors au chômage. Donc, est-ce que ce ne serait pas une façon de déplacer un trou qu'il y a dans la caisse de la retraite pour le placer dans celui de l'assurance chômage ?
Oui, c'est une façon de voir les choses. De toute façon, dans tous les cas, il y a une volonté de faire baisser ces budgets-là. Puisque dans le même temps, on a une réforme de l'assurance chômage qui malheureusement vient d'être décidée avec un tour de passe-passe en annonçant qu'on allait baisser de 40% et puis finalement, ça va être que 25%. Soyez contents avec ça. Voilà. On est dans les mêmes logiques, de toute façon, de faire baisser les entre guillemets coûts sociaux pour dégager de l'argent pour les entreprises et pour le capital. C'est l'éternelle lutte entre le travail et le capital qui se retrouve dans ce qui va nous arriver dans les prochaines semaines.
Vous parliez de choix politiques. Est-ce qu'on pourrait aussi penser à d'autres sources de financement, peut-être pour les retraites ?
Oui. Ah oui, 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 bien, oui, ça, en effet, il y a de nombreuses autres sources de financement, à commencer par augmenter les salaires. La première façon de financer les retraites, c'est d'augmenter les salaires, puisque les cotisations sont en pourcentage. Vous augmentez d'un pour cent les salaires, vous augmentez d'un pour cent le mode de financement, le financement des retraites. La CGT, la CGT porte la revendication d'un SMIC à 2000 euros. C'est même brut. Ouais, si vous mettez le SMIC à 2000 euros brut, ça fait déjà plus de 300 euros brut de net de plus pour chaque salarié au SMIC. Et puis, avec évidemment la volonté d'avoir des grilles glissantes, donc qui permettraient d'accorder cette même augmentation à tout le monde. Déjà, vous avez déjà bien avancé sur la question du financement de la retraite, mais de l'ensemble de la protection sociale en général. Vous avez aussi la possibilité... Et de sortir de l'incantation sur l'égalité salariale femmes-hommes et d'y arriver réellement, de l'imposer. Là, du jour au lendemain, vous dégagez 6 milliards par an. 6 milliards. On a parlé au fait de combien tout à l'heure ? 12 milliards pour 2027. Mais vous avez déjà dégagé 6 milliards à partir d'aujourd'hui. Donc l'employabilité des seniors aussi, c'est un vrai sujet pour financer la retraite. 10% de seniors en moins au chômage, c'est 10 milliards de plus pour la retraite. Voilà. Voilà, il y a des solutions, il y en a. Et je rappelle aussi, toujours ce choix, qu'est-ce qu'on fait comme choix politique ? Est-ce qu'on donne l'argent au CAC 40 ou est-ce qu'on donne l'argent aux salariés et aux retraités ?
Parmi les mesures annoncées, il y a aussi l'augmentation des petites pensions, 1200 euros de retraite minimum, soit 85% du SMIC net. Est-ce que ça peut aussi être une petite avancée
Oui, c'est incontestable. Ben oui, tant mieux. Et on aurait dû le faire bien avant. Mais nous, on veut la retraite minimum au niveau du SMIC, mais pas le SMIC actuel, le SMIC CGT à 2000 euros.
Et un des autres points problématiques de cette réforme, c'est la disparition des régimes spéciaux qui englobent environ 7% des travailleurs. L'argument du gouvernement, c'est de remettre tout le monde sur un pied d'égalité. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette disparition ?
Pas grand-chose. Les régimes spéciaux, ils ont une histoire. Ils ont pour origine des conditions de travail différentes, des conditions d'emploi différentes, et il n'y a pas de raison de les changer. Après, à faire croire aux salariés qu'on va mettre plus de justice en supprimant les régimes spéciaux actuels, ce serait faire croire que les bénéficiaires des régimes spéciaux seraient des privilégiés. Or, quand on regarde, ils ne sont pas. Si vous regardez le niveau des pensions des fonctionnaires et le niveau des pensions, des retraites des salariés du privé, un niveau de qualification équivalente, vous apercevez que ce n'est pas toujours ce qu'on pense qu'ils ont les gagnants, selon les catégories, selon l'emploi qu'on a occupé. C'est une façon d'amuser la galerie et de jouer la division entre la classe ouvrière en général, qu'elle soit dans un régime spécial ou dans un régime général.
Alors je voudrais finir par une dernière question parce que l'horloge tourne. La question du dialogue social, est-ce que vous, enfin globalement les syndicats, la CGT, seriez prêts à négocier avec le gouvernement ? Est-ce qu'on aurait peut-être tout de même besoin d'une réforme différente ? Comment vous voyez les choses ?
Non seulement on est prêt, mais on le demande. Mais ça n'existe pas. Qu'est-ce qui s'est passé en décembre ? Il n'y a pas eu de négociation, il y a eu une concertation. C'est-à-dire que nos représentants sont allés à Matignon ou au ministère du Travail. On dit voilà, nous on veut ça, on est d'accord, on prend note, au revoir. Voilà. Il n'y a pas de négociation. Oui, on veut une négociation. Il faut une vraie négociation sur les retraites. Pas que sur les retraites, sur les salaires aussi, enfin sur de nombreux sujets. Oui, il faut une vraie négociation où on poserait toutes les questions, on mettrait tout sur la table, y compris par exemple le montant de la cotisation. Et surtout, ce sujet n'est absolument pas évoqué par le gouvernement, mais on pourrait se poser, est-ce que le pourcentage actuel de la cotisation, par patronale j'entends, hein, bien évidemment, il est au niveau où il devrait être ? Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre un petit pourcent de plus ou 0,5% de plus ? Est-ce que les entreprises s'écrouleraient pour autant ? Voilà. De nombreuses questions restent à négocier. Chaque organisation il se trouve qu'on a l'ensemble des organisations syndicales qui sont opposées à cette réforme. Comme vous le disiez en propos liminaire, il y aura une rencontre dès ce soir, à peu près vers 18h, entre les organisations syndicales nationales. Ça n'est jamais arrivé depuis 2010. Jamais. Et c'est toujours sur le sujet des retraites, d'ailleurs, qu'on arrive à le faire. Demain soir, nous serons en réunion en intersyndicale avec nos collègues de l'ensemble des organisations syndicales du département, à l'invitation de la CGT. Et nous verrons ensemble comment nous allons organiser la riposte dans les semaines à venir. Voilà. Donc oui, il faut négocier. On veut négocier.
D'accord. Eh ben, merci beaucoup, Hervé Couvert, d'être venu à notre micro.
Merci pour votre invitation.
Dans la vie, il n'y a pas de problème avec les fatalités.